Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous en remercie. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet. Le dossier de ce mois-ci est consacré au Royaume-Uni. Transition de Premier ministre, de Boris Johnson à Liz Truss. Transition de monarque, d'Elisabeth II à Charles III. Il nous a paru essentiel de comprendre et d'expliquer qui était notre voisin et quelles sont également les spécificités du Royaume-Uni. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos émissions, à vous abonner aussi, je vous en remercie. Comme vous le savez, tout augmente, le prix du papier augmente fortement, près de 10% d'augmentation tous les deux mois. Le prix de Conflit n'a pas augmenté, grâce à l'accroissement des abonnements, nous pouvons éviter jusqu'à présent une inflation du prix de la revue et du magazine. Et donc c'est aussi un appel pour ceux qui nous écoutent régulièrement en vous abonnant, vous nous aidez à vous proposer ces émissions en accès libre, vous soutenez la revue et vous nous permettez comme ça de contenir aussi cette inflation des prix, de vous proposer les meilleures analyses géopolitiques à un prix que l'on espère tout à fait accessible pour les uns et les autres. Alors nous allons partir cette semaine dans l'histoire, dans le Grand Nord, pour évoquer ce que l'on appelle communément les Vikings, avec mon invité Lucie Malbos. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être revenu à notre micro, puisqu'on a eu l'occasion il y a quelques mois de faire une émission autour de votre précédent ouvrage qui traitait d'Harald à la dent bleue, et chez Passé Composé. Et vous publiez chez Talendier un autre ouvrage consacré aux Vikings qui s'appelle « Le monde viking, portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne Scandinavie ». Un ouvrage donc de portraits, ce qui en fait un des intérêts et une des originalités. Comme ça, on a véritablement les visages de ces personnes vikings. Et puis un ouvrage qui est composé d'un cahier iconographique fort bien fait pour voir aussi les objets dont vous parlez, également des photos, des dessins en noir et blanc et de nombreuses cartes. Et ça permet pour un sujet qu'on n'a pas forcément tous en tête de positionner les événements, les lieux, de positionner aussi les évolutions. Donc il y a de très nombreuses cartes qui sont extrêmement utiles et il faut remercier Talendier d'avoir proposé ce genre de choses. Alors les notes de bas de page sont toujours à la fin du livre, mais ça, l'auteur n'y est pour rien. Mais j'espère qu'un jour Talendier mettra les notes de bas de page en bas de page. C'est un petit appel d'un lecteur, mais pour le reste, l'édition est vraiment remarquable et il faut remercier le travail éditorial. Alors, Lucie Malbos, vous avez donc présenté différents portraits. On reviendra sur quelques-uns peut-être. Au début de cette émission, présenter à nos auditeurs ce que sont les Vikings. On parle de Vikings, on parle de Normands en France, on va y revenir. Quel est le terme adéquat ? Est-ce que Viking, c'est le terme qu'on leur a donné après coup ? Ou est-ce que c'est la manière dont eux s'appellent, ou dont ils se désignent eux-mêmes ?
Non, effectivement, c'est un terme, vous l'avez bien dit, hein, qu'on donne après coup. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans le titre, on a soigneusement évité de dire « les Vikings hein. ». On a opté pour l'adjectif et donc pour le monde viking. Le terme de viking pour désigner un individu est assez problématique, en effet, puisque les vikings ne se désignaient pas comme ça au 9e siècle. On commence à voir apparaître un petit peu ce terme sur quelques pierres runiques du 10e, 11e siècle. Et puis c'est surtout dans les sagas islandaises, donc à partir du 13e siècle, que le terme vraiment se développe. C'est un terme qui est un petit peu trompeur, qu'on a tendance à superposer ou à entendre comme un synonyme effectivement de Scandinave, de Normand, mais Normand dans le sens latin du terme, c'est-à-dire les hommes du Nord, hein, du latin Nordmanus, et non pas nécessairement les habitants de la Normandie. Alors qu'en réalité, le Viking, le terme Viking ne désigne pas un peuple, ne désigne pas une origine géographique. Contrairement à Scandinave, qui désigne l'habitant de la Scandinavie. Le Viking, à l'origine, c'est celui qui pratique l'activité viking, c'est-à-dire c'est celui qui prend la mer pour aller s'enrichir, faire fortune, gagner des richesses, du prestige, de la renommée. Et pour faire cela, eh bien, il peut partir piller, mais aussi partir faire du commerce, des explorations. Et donc, c'est un terme qui recouvre un petit peu toutes ces activités-là. Et la conséquence de cela, c'est que finalement, tous les Scandinaves ne sont pas nécessairement des Vikings. Il y a des Scandinaves qui n'ont jamais pris la mer pour aller faire fortune. Et donc, on ne peut pas les qualifier de Vikings. Et de même, au fil du temps, à mesure que ce phénomène viking se développe, il y a des gens qui sont originaires d'autres régions que de la Scandinavie qui pratiquent ces activités vikings, qui font du pillage ou du commerce. Et donc ce terme est un petit peu trompeur, comme je le disais. On l'emploie aussi très souvent pour désigner une période bien définie. Période durant laquelle ben, ces activités vikings se développent et que traditionnellement on fait démarrer à la fin du 8e siècle et qu'on fait courir jusqu'au milieu du 11e siècle.
Alors, votre ouvrage traite de la Scandinavie. Les Vikings ont aussi été en Méditerranée. Est-ce que ce sont les mêmes, ceux qui ont annexé la Sicile, ceux que l'on retrouve aussi sur le continent américain, découvertes, enfin qui sont arrivés au Canada actuel? Est-ce que là, ce sont les mêmes peuples ou est-ce que ce sont d'autres personnes ou des évolutions de ces peuples?
On a à nouveau des Scandinaves qu'on retrouve effectivement du côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique. Dire que ce sont les mêmes, c'est une fois encore, c'est assez compliqué puisque finalement on a des groupes très hétérogènes, un peu disparates. Certains sont installés plutôt du côté du Danemark actuel, d'autres du côté de la Norvège ou de la Suède actuelle. Mais toutes ces frontières sont des frontières très contemporaines et n'ont pas forcément grand sens à l'époque viking, donc c'est assez difficile de retracer. Et puis selon les périodes, hein, il y a aussi des évolutions importantes. Je le disais, la période viking, c'est quand même plus de 2 siècles, donc ce ne sont pas non plus les mêmes en termes de chronologie. Quelqu'un qui va aller découvrir un viking qui traverse l'Atlantique au 10e siècle, eh bien, a des différences avec un viking qui va piller un monastère à la fin du 8e siècle. Donc il y a des différences géographiques, mais il y a aussi des différences chronologiques. Et on a un peu tendance à écraser la chronologie. On dit, bon, ben, les vikings, c'était il y a longtemps, c'est à peu près toujours la même chose. En fait, pas du tout. Sur plus de 2 siècles et demi de différence, il y a beaucoup d'évolutions et de changements.
Alors vous avez évoqué le pillage des monastères, ce qui permet de présenter un des portraits que vous faites dans votre ouvrage qui est Rollon. Alors c'est peut-être celui qu'on connaît le mieux en France parce qu'il a envahi le territoire français. Rollon, nous sommes entre le 9e et le 10e siècle, il est décédé à Rouen vers 932. Et c'est celui qui est à l'origine de la Normandie. Qui est-il exactement, ce Rollon, et pourquoi est-il venu sur les côtes françaises? Est-ce que c'est uniquement attiré par les monastères, la soif de l'argent, soif du pillage, ou est-ce qu'il y avait d'autres projets derrière?
Alors Rollon, c'est effectivement un personnage qui est très connu, vous l'avez dit, probablement le plus connu chez nous. Et paradoxalement, c'est un personnage qu'on connaît très mal, ou du moins qu'on connaît très mal avant le tournant qui est 911, hein, donc au début du 10e siècle, au moment où il traite avec le roi carolingien et il obtient l'autorisation de s'installer en Normandie. Mais tout ce qui est avant est très très nébuleux. On ne sait pas très très bien exactement d'où il vient, qui il est. On ne sait pas non plus, et ça c'est un gros point de débat, on ne sait pas non plus depuis quand exactement il est sur le territoire occidental. La suite de l'histoire laisse entendre quand même que Roland n'a pas débarqué sur les territoires occidentaux l'avant-veille, hein, en 910, pour discuter et traiter avec le roi carolingien en 911. On a l'impression d'un individu, et il n'est pas le seul, mais d'un chef qui connaît déjà assez bien ce monde chrétien, ce monde occidental. Il est assez familier de ses us, de ses coutumes, de ses forces et puis aussi surtout de ses faiblesses. Hein, et il va en jouer. Donc c'est un individu qui ne débarque pas comme ça. Il sait exactement où est-ce qu'il arrive et dans quel contexte.
C'est quelqu'un donc qui mène la guerre contre le roi en France. Est-ce que là aussi il a un projet territorial dès l'origine de s'emparer d'un territoire, ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure de ses conquêtes et de ses victoires?
Alors là aussi c'est difficile, on n'a pas le ressenti de Roland, mais il s'inscrit dans une évolution assez générale. Et effectivement, dans les premiers temps, les Vikings, on évoquait tout à l'heure les pilleurs de monastères de la fin du 8e siècle. Dans un premier temps, ces Vikings-là recherchent des richesses, du butin assez facile à faire. Donc on pille un monastère en situation assez isolée, on arrive, on repart. Et progressivement, au fil des générations, les Vikings se familiarisent avec ce monde occidental et se rendent compte qu'il y a peut-être autre chose effectivement à gagner que juste des métaux précieux et des trésors. Et surtout, à partir du milieu du 9e siècle, l'empire carolingien est en train de se fractionner et donc est considérablement affaibli. Et ça, les Vikings en ont parfaitement conscience. Et donc, à partir de la seconde moitié du 9e siècle, ils vont commencer non plus simplement à essayer de piller, mais à essayer de gagner des terres, à s'installer sur place. Et il y a deux régions qui sont touchées de plein fouet par ce phénomène et cette tentative d'installation. C'est l'Angleterre. Et l'autre, eh bien, c'est le nord de la Francie occidentale, hein, le nord de la France actuelle. Et donc celui qui parvient à s'implanter durablement, justement, c'est Roland, Roland et les siens et sa famille.
Ce qui est intéressant, c'est que ils font des pillages. Hein, c'était terrible pour les populations. On a des témoignages qui sont assez effrayants, mais il y a aussi une intégration. Notamment, ils adoptent la religion du territoire qu'ils occupent. Donc, ils sont devenus chrétiens. Il y a une intégration également dans l'espace politique. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'original pour les Vikings, ou est-ce que ça s'est fait à d'autres endroits?
Alors effectivement, il y a une intégration à double titre, mais en fait qui sont liées. Hein. Finalement, la politique et la religion fonctionnent étroitement ensemble à cette époque-là. Et Roland ne peut pas s'installer sur un territoire qui dépend du roi carolingien s'il reste encore païen. Il ne peut pas devenir un fidèle d'un roi chrétien si lui-même reste païen. Donc il se convertit et très rapidement il s'intègre au jeu carolingien. C'est quelque chose qu'on retrouve, c'est un processus qu'on retrouve ailleurs. Je citais rapidement l'Angleterre tout à l'heure. On a aussi l'exemple de ce roi Guthrum, hein, qui se fait baptiser aussi, hein, à la suite d'une défaite face à Alfred le Grand. Et donc, il accepte aussi le baptême, avec une logique assez proche. Hein. L'idée, c'est aussi de pouvoir s'installer, de pouvoir rester en Angleterre. Et pour pouvoir rester en Angleterre, sur un territoire chrétien, eh bien, ils font passer par le baptême. Donc, effectivement, Roland n'est pas un cas isolé. Ça n'est pas non plus la première tentative, hein, de la part des élites carolingiennes pour convertir un chef viking. Il y avait eu quelques tentatives auparavant, mais c'est une de celles qui fonctionne, et qui fonctionne très durablement.
Alors, il y a le fameux traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, qui est le nom d'une rivière, l'Epte. Aujourd'hui, quand on passe de la France à la Normandie et qu'on franchit cette rivière, qui est charmante mais qui n'est pas très grande, on a du mal à imaginer que ça a longtemps été une frontière, non pas entre deux royaumes, mais enfin en tout cas une frontière politique. Quelle est l'importance de ce traité de Saint-Clair-sur-Epte pour Roland et de son intégration dans le monde franc?
Alors c'est un traité que rétrospectivement on considère comme fondateur. De fait, il l'a été, mais dont on a peut-être tendance à exagérer la portée dans le sens où on en fait souvent la naissance du duché de Normandie. On lit ou on entend ça. En réalité, en 911, on est vraiment au début du processus. C'est quand même un moment important puisque c'est le moment où Roland donc obtient l'autorisation de s'installer sur un territoire qui en fait est assez restreint encore à l'époque. C'est pour ça que le terme naissance du duché de Normandie est très exagéré. Déjà, il n'est pas duc en 911, hein, il reste comte ou même jarl, hein, c'est le titre qu'emploient les Scandinaves, et il obtient une région qui en gros entoure l'estuaire de la Seine, c'est la région autour de Rouen. C'est une région qui est stratégique, puisque en confiant cette région-là à Roland, eh bien le pouvoir carolingien va aussi lui confier la protection d'un secteur clé, hein, qui est vraiment l'estuaire de la Seine, l'embouchure, et l'endroit par lequel s'engouffrent les Vikings, ce qui leur permet de remonter, et de remonter notamment jusqu'à Paris, hein, ça a déjà été le cas, il y a eu déjà plusieurs sièges de Paris, notamment celui des années 880. Donc ce traité, il est un petit peu gagnant-gagnant, chacun s'engage à faire quelque chose, hein. Donc Roland obtient ce territoire et en contrepartie, il s'engage à aider le pouvoir en place à le défendre. Et l'autre contrepartie, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il se convertit.
Alors vous avez évoqué à plusieurs reprises sur Roland, mais c'est valable aussi pour les autres, la difficulté de connaître parce que les sources sont réduites. Quand on travaille comme vous sur l'histoire des Vikings, quelles sont les sources dont on dispose? On suppose des sources écrites, des sources archéologiques, mais est-ce qu'on a également des textes écrits des Vikings eux-mêmes, ou est-ce que ce sont uniquement des textes des populations qui ont subi les Vikings et ou qui ont été en guerre contre eux?
Alors c'est effectivement toute la difficulté, hein. C'est ce qu'on dit souvent, qu'on a essentiellement le point de vue des victimes des raids vikings. Et c'est vrai pour ce qui est des textes, on travaille en grande partie avec des textes qui sont soit un regard décalé dans l'espace, soit un regard décalé dans le temps. C'est-à-dire qu'on a soit des textes qui sont rédigés à peu près à l'époque des raids vikings, mais par des auteurs chrétiens occidentaux, soit des textes qui peuvent être rédigés par des Scandinaves, mais beaucoup plus tard. Ce sont par exemple les fameuses sagas, mais qui sont rédigées 3, 4 siècles après les faits, ce qui est un décalage chronologique considérable. Et dans les deux cas, qu'on ait le regard des auteurs occidentaux, qu'on ait le regard des auteurs plus tardifs, on a un regard chrétien. Puisque au XIIIe siècle, tous les auteurs qui rédigent les sagas sont des auteurs chrétiens. Et donc on a ce prisme qui est difficile, hein, et dont il faut tenir compte quand on essaye de se pencher sur ces données textuelles. Alors on a quand même quelques petits textes qui sont issus des Scandinaves eux-mêmes, mais qui sont en fait des textes beaucoup plus difficiles à utiliser, beaucoup plus courts. Ce sont les fameuses inscriptions runiques qui sont gravées notamment sur des pierres, mais pas seulement. Donc runiques parce que ce sont des inscriptions qui sont gravées en runes, hein, qui est l'alphabet des anciens Scandinaves. Ce sont des documents qui sont très intéressants, on en a un certain nombre, hein, quand même, mais qui sont très stéréotypés, très courts. C'est généralement, on a un premier nom propre, donc un tel a érigé ce monument à la mémoire de, et là on a un deuxième nom propre qui arrive. C'est des personnages qu'on a généralement beaucoup de mal à resituer parce qu'on n'a pas d'autres sources avec lesquelles recouper l'inscription, mais parfois il y a des détails. On nous explique dans quelles circonstances ou à quel endroit le second personnage est mort, par exemple. Et donc là, on peut essayer de retracer certains parcours, certains voyages. Et puis les objets en eux-mêmes sont très intéressants. Il y en a beaucoup qui mélangent des serpents ou dragons, donc des anciens motifs des croyances scandinaves, avec le symbole de la croix qui apparaît sur beaucoup de pierres uniques. Et c'est un élément intéressant dans la mesure où en fait beaucoup de ces pierres uniques sont érigées à la charnière, au tournant, hein, qui correspond à la christianisation de la Scandinavie, donc plutôt fin 10e et 11e siècle. Et donc on a des documents qui nous renseignent aussi sur cette période de transition. Mais en dehors de ces quelques inscriptions, pour le monde scandinave, on n'a pas de texte qui soit contemporain des faits et qui soit produit par les Scandinaves eux-mêmes. Il va falloir se tourner vers d'autres types de sources que j'utilise aussi, et notamment l'archéologie.
Alors, vous évoquez les pierres runiques, ce qui permet de parler d'une autre personne dont vous parlez dans votre ouvrage, à savoir Estrid. Et vous avez notamment mis dans l'ouvrage une représentation d'une pierre runique avec une inscription. Donc vous dites que cette inscription a été gravée à la demande d'Estrid elle-même. Et c'est une pierre en hommage à son mari, qui dit ceci, à la mémoire d'Osten, son époux, qui attaqua vers Jérusalem et trouva la mort en Grèce. Donc on a là un mari qui est parti bien loin de la Scandinavie, puisqu'on le retrouve à Jérusalem et en Grèce, donc probablement à but de pèlerinage. Et c'est aussi une manière pour son épouse de faire perdurer sa mémoire et de l'inscrire aussi dans le paysage. Ces pierres runiques, elles ont quelle fonction? Ce sont des tombes, ce sont des bornes, ce sont des inscriptions?
Alors, c'est plusieurs choses à la fois, mais ce ne sont pas des pierres tombales. Dans le sens où si on creuse au pied de la pierre runique, on ne tombe pas sur un corps. Donc ce sont des monuments qui ont une visée commémorative, comme une pierre tombale, hein. Il s'agit de célébrer la mémoire de quelqu'un qui a disparu, mais à la différence de la pierre tombale, le corps n'est pas en dessous. Ces pierres s'expliquent souvent aussi parce que peut-être le corps a disparu, hein. En l'occurrence pour Osten, donc le premier époux d'Estrid, il est très probable que le corps ne soit jamais revenu, hein, depuis ce monde oriental où il est mort, et donc faute de corps, eh bien Estrid a fait ériger ce monument commémoratif. Donc ce sont des monuments qui célèbrent la mémoire des disparus, qui célèbrent aussi indirectement la mémoire de ceux qui sont encore vivants, puisque le premier nom qui apparaît sur une inscription runique, ça n'est pas celui du défunt, c'est toujours celui du commanditaire. C'est toujours Estrid a fait ériger à la mémoire de Sten. Donc on a toujours la personne qui a commandé la pierre en premier et qui finalement, en faisant ça, célèbre la mémoire du défunt, mais contribue aussi à entretenir sa propre mémoire auprès des générations futures. Ce sont aussi très souvent vous avez employé le terme, il me semble, hein, des bornes ou des marqueurs. On a remarqué que beaucoup de ces pierres uniques étaient implantées dans des endroits en général assez stratégiques, alors quand elles n'ont pas été déplacées, parce que c'est la difficulté, hein, certaines ont pu être déplacées au fil du temps, mais elles sont souvent à des carrefours, près de routes, près de guets, près de ponts, à des endroits où elles sont particulièrement visibles, où il y a du monde qui passe devant. Elles peuvent aussi marquer aussi des possessions et des possessions de terre. C'est aussi une façon, quand vous érigez une pierre runique qui fait parfois 2 mètres, voire plus, hein, de haut, donc c'est un monument important, c'est aussi une façon de dire, bon ben là, ici, c'est chez moi, hein, on est sur mes terres, on est sur les terres de ma famille, et donc c'est une façon de faire passer ce message aussi. Et certaines inscriptions vont dans ce sens, on a des inscriptions, hein, qui rappellent des processus de transmission de patrimoine, et donc c'est aussi une façon de marquer cela pour une famille.
Alors Estrid, c'est une femme très intéressante, elle a été mariée 2 fois, elle a eu plusieurs enfants, 7 dites-vous, et c'est une propriétaire terrienne, elle a des terres assez importantes. Est-ce qu'elle a un rôle politique ou est-ce qu'on est uniquement en présence, on pourrait dire, d'une grande fermière, enfin fermière au sens de quelqu'un qui a des terres, une ferme et qui les fait cultiver?
Alors le rôle politique d'Estrid, on n'en a aucune trace, dans le sens où les sources qui nous permettent de faire un petit peu la biographie de ce personnage sont, on l'a dit, les pierres uniques qui ne mentionnent pas d'activité politique particulière, et également probablement sa tombe qu'on pense avoir retrouvée, mais qui ne nous apprend rien sur le rôle politique d'Estrid. On a malheureusement quasiment pas de texte par ailleurs qui viendrait compléter. Après, on peut essayer de d'émettre des suppositions en fonction de ce qu'on sait des femmes de l'époque, et il est assez vraisemblable que le rôle dans la vie publique, dans les affaires publiques d'Estrid soit assez limité. On sait qu'à l'époque viking, les femmes, a priori, ne prennent pas part à l'assemblée des hommes libres, hein, c'est réservé justement aux hommes. Et donc une femme ne s'occupe pas des affaires publiques, des affaires extérieures, ou si elle s'en occupe, c'est indirectement. Dans le cadre ensuite du foyer, en discutant avec son mari, en éventuellement le conseillant. Et on peut imaginer que Estrid a eu ce mode de fonctionnement.
Alors c'est une femme chrétienne et sa famille aussi est chrétienne. D'ailleurs on le voit sur l'inscription, son mari est parti à Jérusalem, probablement en pèlerinage.
Oui, c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de cette famille, c'est que c'est une famille alors chrétienne, on ne sait pas depuis quand. Peut-être que Estrid et Eusten sont la première génération. On n'a aucun moyen de savoir s'ils sont nés chrétiens ou s'ils ont été baptisés dans leur jeunesse ou un petit peu plus tard, ça on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont morts en chrétiens, ça c'est effectivement indéniable. Tout converge, hein, que ce soit les grandes croix qui sont gravées sur les pierres uniques de cette famille, que ce soit effectivement cette mention de ce voyage vers Jérusalem. Alors on ne sait pas très bien, est-ce qu'il s'agit d'un pèlerinage? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Mais quoi qu'il en soit, voyager à Jérusalem au XIe siècle, ça n'est pas anodin. Et on a également une autre source que je n'ai pas mentionnée encore pour Estrid, qui est une mention d'Estrid et d'Eusten et d'un de leurs fils dans ce qu'on appelle le livre de confraternité du monastère de Reichenau. Donc on est du côté de la Suisse actuelle, hein. Et un livre de confraternité, c'est en fait une liste de toutes les personnes importantes ou qui ont fait des dons importants pour la vie de la communauté monastique et en l'honneur de qui, à la mémoire de qui, la communauté des moines s'engage à prier régulièrement. Et donc parmi les centaines, les milliers de noms qui sont recensés dans le livre de confraternité de Reichenau, on a dans un petit coin de page une Estrid et un Eusten qui apparaissent. Et il est très très vraisemblable, il est même quasiment sûr que ce sont effectivement les mêmes personnages. Donc on est très loin de la Suède, hein, dont ils sont originaires. Mais le fait qu'il se soit Estrid et Eusten, on est sur une page qu'on a pu dater du XIe siècle. Et par ailleurs, eh bien, Reichenau est sur la route qui permet éventuellement de descendre vers le monde oriental. Et on a aussi retrouvé dans la tombe qu'on pense être d'Estrid une petite pièce de monnaie qui est originaire de cette région aussi. Donc tout a l'air de concorder. Et donc j'en reviens à l'histoire de la religion. On a le nom d'Estrid dans un livre de prière qui est utilisé pour la prière des moines de Reichenau au XIe siècle. Donc on a vraiment une famille qui est chrétienne, il n'y a pas de doute, et qui est très fière de mettre cet aspect-là en avant.
Alors, autre figure que vous évoquez, on va en parler dans les quelques minutes qui nous restent avant la fin de cette émission, c'est la personnalité d'Éric le Rouge, parce que c'est celui qui s'est rendu sur les rivages de l'Amérique, le Groenland. Il y a eu plusieurs établissements sur le Groenland, et puis on a également retrouvé des traces dans le fleuve Saint-Laurent et autour de Terre-Neuve. Le Groenland, qu'est-ce que ça représente pour les Vikings à l'époque? C'est une colonie, c'est une zone de commerce, de culture également.
Alors c'est effectivement une colonie dans le sens où des Vikings, et donc notamment Éric le Rouge et ses proches, s'y sont installés, s'y sont établis. Hein. Il y a deux endroits qui sont deux établissements qui sont mis en place, qu'on a pris l'habitude d'appeler sans grande originalité l'établissement de l'Ouest, parce que c'est celui qui est le plus à l'Ouest, et l'établissement de l'Est qui est le plus à l'Est. Et donc c'est dans cet établissement de l'Est que s'installe Éric le Rouge et les siens. Ces installations correspondent à des installations effectivement plutôt de fermiers. Hein. On va avoir des activités alors agricoles, un petit peu d'élevage. En fait. Il faut quand même être honnête, le Groenland, c'est pas non plus le territoire avec le meilleur climat et enfin le climat le plus favorable. Ce que les colons cherchent aussi, mais rapidement vont se trouver à court, c'est un petit peu de bois, à exploiter, hein. On est dans une civilisation du bois. Pour faire des bateaux, il faut du bois. Pour faire des bâtiments, il faut du bois. Et puis des possibilités aussi éventuellement de faire étape sur le Groenland et de pouvoir poursuivre ensuite la route ailleurs. Le processus en fait d'installation et de découverte dans l'Atlantique Nord a beaucoup fonctionné de cette façon-là, c'est-à-dire que on fait des sauts de puce en quelque sorte, hein, on avance d'étape en étape et finalement les colons qui arrivent au Groenland n'arrivent pas directement de Scandinavie, ils arrivent d'Islande. Donc ils arrivent d'Islande, ils s'installent au Groenland et à partir du Groenland, ils peuvent continuer un petit peu plus à l'ouest et notamment finir de traverser l'Atlantique pour arriver du côté de Terre-Neuve.
Quelle est la finalité de ces expéditions? Est-ce que c'est uniquement commercial, découvrir de nouvelles terres, ou est-ce que s'il s'agit d'étendre aussi une domination politique?
Non, d'étendre une domination politique, non, a priori. L'objectif est lié à la fois, je pense, à la curiosité, à l'esprit d'aventure de ces hommes et de ces femmes qui n'avaient quand même pas froid aux yeux et qui finalement étaient toujours curieux d'aller voir ce qu'il y avait plus loin, plus à l'ouest, de l'autre côté de la mer ou plus au nord. On a un autre personnage comme ça dans le livre que j'évoque, qui est Ottar. Lui, il remonte toujours plus au nord vers le cercle polaire parce que il est curieux, nous dit-il, d'aller voir ce qu'il y a, d'aller rencontrer ces peuples qu'il ne connaît pas. Donc il y a cette curiosité. Et puis il y a aussi effectivement cette volonté de trouver de nouvelles terres. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure avec la Normandie, de trouver de nouvelles terres, de s'installer, d'installer des établissements qui sont aussi des sites de commerce, donc de continuer à entretenir des échanges avec le reste de la Scandinavie, avec le reste de l'Europe aussi, hein, qui est demandeuse notamment de fourrures d'animaux arctiques, d'ambre ou d'ivoire de morse, hein, par exemple, pour citer quelques-unes des marchandises qui arrivent du Nord. Et cette logique, on la retrouve aussi probablement hein, du côté de Terre-Neuve. Les sagas mettent en avant un certain nombre d'éléments qui ont vraiment frappé les Scandinaves lorsqu'ils sont arrivés là-bas. Qu'est-ce qui a retenu leur attention? La présence de forêts gigantesques, donc on retrouve la problématique du bois. La présence de vignes qui poussaient à l'état naturel. Donc là, on est dans une denrée alimentaire ou quelque chose qui permet de faire du vin. Donc c'est vraiment ces aspects-là qui les ont retenus. Et à aucun moment on a cette impression ou cette mention d'une volonté de domination ou d'impérialisme, appelons cela comme on veut. C'est totalement anachronique hein, pour les Vikings, pour la simple et bonne raison aussi qu'à l'époque, on n'a pas vraiment un espace ou un empire politique qui soit constitué. La Scandinavie n'est pas un territoire politique, n'est pas un ensemble politique en tant que tel. C'est une mosaïque d'abord de petits groupes, de petites tribus, avec chacune leur chef et leur roi. Puis progressivement, à partir du 10e, 11e siècle, c'est un ensemble avec trois royaumes qui sont en train d'émerger. Mais on n'a pas un gros bloc, et donc il n'y a pas du tout cette volonté comme on pourrait la retrouver à l'époque contemporaine, avec l'Empire britannique ou même la France en train d'étendre sa domination sur des colonies ou ultramarines. Là, on est dans un processus qui n'a rien à voir, hein, qui est vraiment très très différent.
On a longtemps oublié, on n'a pas gardé la mémoire, la trace mémorielle de ces découvertes du continent américain. Ce n'est que très récemment qu'il y a eu des fouilles et qu'on a pu démontrer que les Vikings avaient découvert bien avant Christophe Colomb, enfin avaient mis le pied bien avant Christophe Colomb, que quasiment 5 siècles avant.
Oui, effectivement, en fait, ça fait longtemps qu'il y a cette idée des Vikings en Amérique parce qu'il y a ces fameuses sagas, et notamment la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais qui sont très claires, hein, qui évoquent ces installations, qui évoquent les rapports difficiles avec les populations locales, donc un certain nombre de détails. Mais pendant très longtemps, jusqu'en gros à la seconde moitié du XXe siècle, ces textes ont été laissés dans l'ombre hein, par les historiens qui les considéraient comme des sources qui n'étaient pas fiables pour la raison que j'évoquais tout à l'heure hein, qui est que ce sont des textes qui sont écrits beaucoup plus tard, plusieurs générations après les faits, qui sont écrits dans un contexte chrétien. Et donc, on ne se servait pas de ces sagas, et même ça allait plus loin, on considérait que tout ce qui était raconté dedans relevait de la fable, de la fabulation, de l'invention. Et donc, très longtemps, cette histoire de Scandinave qui serait arrivée de l'autre côté de l'Atlantique a été considérée un petit peu comme un mythe. Jusque dans les années 1960, jusqu'aux premières fouilles qui ont pu être menées donc du côté de Terre-Neuve sur un site qui s'appelle Lance aux Meadows. Donc on est sur la pointe vraiment nord de l'île de Terre-Neuve, on est face à l'embouchure du Saint-Laurent. Et à cet endroit-là, donc dans les années 1960, les archéologues ont découvert les traces d'un établissement qui présente tous les traits d'une installation scandinave. Le mode de construction des bâtiments est le même que celui qui est utilisé au Groenland ou en Islande. On a retrouvé des traces aussi d'activités métallurgiques qui rappellent aussi des activités qu'on peut pratiquer dans les territoires scandinaves. Donc il y a pas vraiment de doute sur cette question-là. On a des Scandinaves qui se sont installés sur ce site-là, site qui a pu être daté. Des environs de l'an 1000, hein, début du 11e siècle, ce qui correspond à peu près à la datation qu'on avait pour la génération après Éric le Rouge, hein, donc ses enfants, lorsqu'ils traversent l'Atlantique. Et donc à partir des années 1960, eh bien on est retourné aux sagas, en se disant que finalement ce qui était raconté dans les sagas, eh bien semblait contenir une part de vrai, et ça correspond aussi à un tournant dans l'historiographie et dans l'utilisation des sources, hein, on est toujours très très prudent avec les sagas, hein, puisqu'il y a vraiment ce gros décalage chronologique, mais de plus en plus, les historiens essayent de voir comment ils peuvent, dans une certaine mesure, utiliser les sagas en les recoupant avec d'autres sources d'informations, notamment archéologiques, et donc le mythe est devenu réalité à partir des années 1960.
Merci beaucoup, Lucie Malbos, d'avoir évoqué quelques éléments de ce monde viking. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Monde Viking, portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne Scandinavie, qui est paru chez Talendier. Les références sont, comme chaque semaine, à retrouver sur le site internet de Conflit. Et puis, une émission que nous avions enregistrée il y a quelques semaines, que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Conflit, qui était consacrée à Harald, là, dans Bleu, donc un autre ouvrage que vous avez publié en 2022, cette fois-ci chez Passé Composé. Merci à vous tous pour votre fidélité à nos émissions. Je vous retrouve la semaine prochaine.